Je vous propose donc de nous attaquer au premier des trois chapitres que nous allons examiner ensemble. Il s'agit du chapitre 29 du livre du prophète Jérémie. Je ne vais pas le lire en totalité, je vais lire les versets 1 à 19. Et le message portera sur cette partie-là du chapitre. Les trois chapitres que nous allons examiner sont fort longs. Et donc ici ou là, j'ai fait quelques petits choix et on ne va pas forcément lire à chaque fois la totalité de ces chapitres. Jérémie 29, à partir du verset 1. Et je vais utiliser pour ma part la version du Summer édition 2015, qui sera projetée à l'écran également. Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsistaient en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabucodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. La lettre fut envoyée après le départ du roi Yéconia, de la reine-mère, des fonctionnaires du palais royal, des ministres de Juda et de Jérusalem, des artisans et des forgerons, par l'intermédiaire d'Éléassa, fils de Shaphan, et de Gemaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone, à Nabucodonosor, roi de Babylone. La lettre disait « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple. Et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés, l'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déporté. Or, vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes ici, à Babylone. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de David, pardon, et de tout le peuple qui habite dans cette ville-ci, de vos compatriotes qui n'ont pas été déportés avec vous. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je vais déchaîner contre l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées, tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, et je ferai qu'ils inspirent l'épouvante dans tous les royaumes de la terre. Je ferai d'eux un sujet de malédiction, un spectacle désolant. Ils s'attireront des sifflements horrifiés et l'opprobre de tous les peuples au milieu desquels je les aurai dispersés, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel, lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs les prophètes sans me lasser. Non, vous ne les avez pas écoutés. L'Éternel le déclare. Jusqu'ici la parole de Dieu. Imaginez que vous prévoyez de partir en Pologne pour un mois dans le cadre de votre travail. Un mois en Pologne pour un déplacement, pour une mission particulière. Il est peu probable, dans ce contexte-là, que vous suiviez un cours de polonais ou que vous passiez beaucoup de temps à apprendre à connaître la culture de ce pays. Peut-être vous allez aller sur Google pour voir quels sont les deux, trois faux pas à éviter, comment est-ce qu'on dit bonjour, comment est-ce qu'on dit merci, ce genre de choses, tout au plus. En revanche, si vous allez en Pologne pour 2 ans pour le travail, là, ça va quand même changer la donne. Vous allez peut-être vous poser la question autrement. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps là-bas ? Au moins, apprendre quand même des rudiments de la langue, pouvoir converser un petit peu, mieux comprendre la culture. Si vous y allez pour 10 ans, là, vous risquez de vous dire que ça serait dommage de passer toute une partie, tout un segment de votre vie dans ce pays sans apprendre à parler correctement la langue, peut-être même couramment. et à vous intégrer partiellement dans la culture de ce pays. Enfin, si vous allez en Pologne pour le très long terme, peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire le reste de votre vie, eh bien là, vous allez probablement vouloir vous intégrer autant que possible dans la culture locale. Sans doute que vous resterez étranger par certains aspects, certainement, mais finalement, la Pologne sera devenue votre nouveau chez vous. Et c'est là que vous irez faire votre vie. En fait, la question se pose pour pas mal de gens dans le monde. Quand on est à l'étranger, quand on est dans un pays étranger, comment est-ce qu'on va vivre ? Est-ce qu'on va y vivre en touriste ? Est-ce qu'on va y vivre en immigré ou en expatrié ? Est-ce qu'on va y vivre en résident permanent, voire en naturalisé ? D'une certaine manière, cette question, elle est à l'arrière-plan de ce texte de Jérémie 29. Quelques éléments de contexte. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple de Juda, donc le royaume du sud du pays d'Israël, qui avait été divisé en deux après la mort du roi Salomon, donc un peu comme la Corée du Nord, la Corée du Sud, il y avait Israël du Nord, qu'on appelait souvent par simplicité Israël, et il y avait Juda au sud, avec Jérusalem comme capitale. Le peuple de Juda a été vaincu par la grande puissance régionale, Babylone. Or, comme stratégie pour neutraliser ses ennemis, Babylone, et d'autres peuples d'ailleurs à cette époque, avaient pour pratique de ramener chez elles en exil une grande partie même des peuples conquis. Sans doute qu'aujourd'hui, à l'échelle démographique d'aujourd'hui, ça serait tout simplement impossible d'avoir ce genre de pratique, mais à l'époque, c'était quelque chose, semble-t-il, de relativement courant. Un premier groupe d'exilés judéens, plutôt issus, on pourrait dire, de l'élite de Jérusalem, a été exilé en l'an 605 avant Jésus-Christ. Quelques années plus tard, en 597, un nouveau convoi plus large est emmené en exil. Et c'est à l'issue de cette deuxième vague, on pourrait dire, de l'exil que se situe notre texte. Il y en aura une troisième, vraiment dramatique, un peu plus tard. Mais là, on se situe après cette deuxième vague, en quelque sorte. Or, au chapitre 28, qui précède le nôtre, il y a un faux prophète, Anania. Alors lui, il pensait peut-être être un vrai prophète, mais c'était un faux prophète, Anania, qui proclame que le séjour des exilés à Babylone sera court. Pas de souci, les amis, vous pourrez bientôt rentrer chez vous à Jérusalem. Vous inquiétez pas. Vous vous rappelez au début de la crise du Covid, quand certains, et j'en faisais partie pour tout vous dire, prédisaient que ça serait réglé en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Bah, c'est ce qu'on avait envie d'entendre. Je me rappelle un membre de mon église qui, dès le début, me disait « Cette histoire, elle est partie pour durer longtemps. » Et ça m'agaçait un peu quand il disait ça. Moi, je le trouvais trop pessimiste. Il a eu totalement raison, évidemment, sur toute la ligne. C'est un peu cette dynamique que nous avons dans notre texte. Les exilés judéens, ils avaient envie d'entendre, évidemment, que leur exil ne durerait pas longtemps. Mais au chapitre suivant, au chapitre 29, donc, que nous venons de lire, Jérémie, lui-même encore à Jérusalem, il écrit une lettre aux exilés et il contredit totalement ce que leur a dit Anania. Et il va envoyer, de la part de Dieu, un message très différent. Et c'est ce message dont nous allons essayer de comprendre à la fois le contenu dans le contexte de l'époque et la pertinence pour nous. Je résumerai le message de ce chapitre de la manière suivante. Inspiré par Dieu, Jérémie veut que les exilés à Babylone comprennent la réalité du jugement, acceptent et optimisent leur exil, et qu'ils ne se trompent pas d'espérance. D'abord, il veut qu'ils comprennent la réalité du jugement. Pendant longtemps, j'ai lu ce chapitre 29 de Jérémie de façon assez positive. Et ça correspond à une lecture relativement en vogue qui insiste en premier lieu sur les aspects positifs de ce texte. Les versets 5 et 6 nous disent après tout « Construisez des maisons et installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les productions, mariez-vous et ayez des enfants. » C'est plutôt sympa comme programme, comme perspective, n'est-ce pas ? On imagine peut-être un groupe de judéens attablés au fond du jardin, sous le cerisier, autour d'un barbecue. On conclut tout ça par des chamallows ensuite. C'est sympa, c'est l'été. Non, plus sérieusement, c'est une image de paix et de contentement qui semble se dégager quand on lit juste ces deux versets. sans parler de l'appel, au verset 7, à rechercher le bien-être de la ville, texte abondamment cité de nos jours, pour encourager, à juste titre, l'investissement des croyants dans leur ville. Donc cette tonalité positive, elle est présente, à n'en pas douter, dans ce texte. Elle est présente. Et nous y reviendrons. Mais il ne faudrait quand même pas oublier le contexte, qui est un contexte d'épreuve et de jugement. Ces exilés à Babylone, ils ont été déracinés et exilés de force, emmenés de force. C'est vrai qu'ils sont, semble-t-il, bien traités à Babylone, mais ils ont dû laisser derrière eux le pays promis par Dieu à leurs ancêtres et à leurs descendants. Ils ont sans doute tous quitté des proches. Ils n'ont plus accès au temple, le lieu où on venait pour adorer Dieu. Et ce temple, d'ailleurs, il sera bientôt détruit. Ils vivent dans un pays païen, un pays idolâtre. Et ils doivent se demander, mais qu'en est-il ? Qu'en est-il de toutes les promesses de Dieu faites à Israël ? La terre promise, l'alliance, les promesses pour l'avenir ? Or, le pseudo-prophète Anania vient de leur annoncer, aux exilés, au chapitre précédent, je l'ai dit, que leur exil ne durerait pas longtemps. C'est l'affaire de 2 ans, dit-il, avant le retour à la vie normale, n'est-ce pas ? Babylone va s'effondrer, la libération est proche. Et donc, quand on entend ça, 2 ans tout au plus, on se dit, bon, ça se fait, 2 ans. Peut-être même pas la peine de descendre les valises à la cave. On va attendre, on va patienter et ça sera bon. Mais c'est là que le Seigneur va intervenir par le biais du prophète Jérémie et de cette lettre qu'il écrit aux exilés pour remettre les pendules à l'heure. Voici ce qu'il dit, voici ce qu'il écrit dans sa lettre plutôt. « Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. » Et là, c'est la douche froide, la plus totale. Ça va durer non pas 2 ans, comme disait Anania, mais 70 ans. Mettons-nous à la place des premiers lecteurs et auditeurs de ce que dit Jérémie. Ça change tout dans la perspective. Et à nouveau, je vais repenser à la crise sanitaire que nous avons traversée. Imaginez si au milieu du premier confinement, on nous avait dit « Le déconfinement, ça pourrait se faire autour de 2089-2090. » Vous imaginez le choc ? Il aurait fallu porter des masques pour le reste de notre vie, la distanciation sociale pour le reste de notre vie. Pour les Judéens en exil, ce message qu'ils allaient devoir rester 70 ans, il faut quand même penser un peu à l'espérance de vie, hein, quand on se met à la place des gens qui entendent ça. Ils n'avaient pas tous 15 ans. Ce message a dû être extrêmement difficile à entendre, car il voulait dire que la grande majorité des premiers auditeurs de ce message n'allaient jamais revoir leur pays. Jamais. Leur vie serait à Babylone. Donc si nous entendons d'abord une tonalité très positive dans ce « construisez des maisons et mariez-vous », c'était certainement pas la première réaction des exilés à l'époque. Surtout quand la lettre de Jérémie leur demande un comble de prier pour Babylone, leur ennemi qui les garde captifs. Prier pour Babylone, et puis quoi encore ? Plus loin dans le texte, le Seigneur va révéler un autre aspect du jugement. Celui qui, indépendamment de l'exil, va continuer à peser pendant longtemps sur le pays de Juda lui-même, où vivait quand même encore une grande partie du peuple. Quelques extraits de cette section. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de David et de tout le peuple qui habite dans cette ville-ci, Jérusalem, puisque Jérémie est à Jérusalem quand il écrit. De vos compatriotes qui n'ont pas été déportés avec vous, je vais déchaîner contre l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel, lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, sans me lasser. Je les rendrai semblables à des figues pourries. On n'est peut-être pas si mal à Babylone, finalement. Ce passage, il est dur, bien sûr. Il est dur. Il est à replacer dans le contexte d'un peuple qui s'est largement détourné de son Dieu et qui s'est aligné sur les pratiques idolâtres et immorales de tous les pays voisins. Le jugement doit passer, et il doit passer selon la parfaite justice de Dieu. la justice qui est prévue dans la loi même de Moïse, qui avait mis en garde le peuple depuis l'époque de Moïse, si vous vous détournez de Dieu, les conséquences seront dramatiques. Quand on se détourne du Dieu de la vie, on ne peut pas espérer trouver autre chose que la mort. Et le message pour les exilés est clair. Vous êtes sous le jugement, vous là-bas à Babylone certes, mais le pays de Juda l'est bien plus encore. En fait, vous êtes dans une situation plus enviable que ceux qui sont restés sur place. Autrement dit, changez de perspective, ne vous dites pas vivement qu'on retourne à Juda, parce que Juda est sous le jugement. Vous avez tout intérêt à être à Babylone plutôt qu'à Jérusalem. Les Judéens en exil se languissaient de leur pays d'origine et sans doute l'idéalisaient un peu, mais Dieu leur rappelle que ce pays est sous son jugement. Parfois, dans nos calculs humains, nous oublions peut-être que ces choses qui paraissent si désirables sont dans une certaine mesure sous le jugement de Dieu, dans ce monde déchu. Le travail, le mariage, l'argent, les amitiés. Dans toutes ces choses, la grâce est à l'œuvre. Mais toutes ces choses subissent aussi les conséquences de notre rupture originelle avec Dieu. Seul Dieu lui-même ne nous décevra jamais. Seul lui nous offre une espérance sûre et on y reviendra. Maintenant, pour les Judéens qui venaient d'être pris de plein fouet par cette nouvelle, vous allez devoir rester là pendant 70 ans, se poser forcément la question, bon, bah, et maintenant on fait quoi? Comment est-ce qu'on va vivre dans cet exil pour quasiment le reste de la vie, ou pour beaucoup d'entre eux pour le reste de la vie? Et ça nous amène à notre deuxième point. Dieu souhaite que les Judéens acceptent et optimisent leur exil. On l'a vu, quand on regarde de près ce chapitre, on doit y voir avant tout un message négatif, au sens un message qui rappelle le jugement qui est à l'œuvre dans l'exil à Babylone. Le retour à la maison, ce n'est pas pour tout de suite et c'est même pour dans très longtemps. Mais bien sûr, tout n'est pas sombre dans ce texte. L'exil à Babylone se présente dans des conditions relativement favorables. Malgré le déracinement, Dieu va montrer sa bonté à son peuple. Et il va montrer qu'il n'a pas oublié son peuple. En effet, il l'invite à se multiplier. Au verset 6, « Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. » Notons que c'est exactement le même verbe qui est utilisé en Genèse chapitre 1. Lorsque Dieu crée l'humanité, Genèse 1, 28, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Mais il y a aussi un écho à la parole que Dieu a adressée à Abraham, Genèse 17, 1, « Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. » Donc on voit que même en exil, Dieu n'a pas oublié son peuple. Et il l'appelle à continuer à se multiplier, ce qui manifestement relève à la fois de la vocation humaine, mais aussi de la vocation spécifique de la descendance d'Abraham. Il l'appelle donc à continuer à se multiplier et même à ne pas laisser diminuer son nombre. Dieu a encore des projets, semble-t-il, pour son peuple. Sinon, il ne lui dirait pas de se multiplier et même à ne pas laisser diminuer son nombre. Et d'ailleurs, cette dernière parole précise bien, si on en avait un doute, que Dieu n'appelle pas ici les Israélites, les Judéens, à l'assimilation à Babylone. Dieu veut faire grandir le peuple d'Israël à Babylone. Il ne veut pas juste faire augmenter la population locale à Babylone. Dieu n'invite pas son peuple à l'assimilation. En revanche, il l'invite à être une source de bénédiction pour leur terre d'exil, comme on peut le voir au verset 7. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. Donc la prière, elle est à la fois audacieuse et elle est en même temps intéressée pour les Judéens. Plus tard, le jugement viendra sur Babylone et Jérémie va en parler dans ses chapitres, dans les chapitres 50 et 51 de son livre. Après les 70 années allouées à Babylone, comme le dit le Seigneur, le temps qu'il laisse à Babylone pour avoir cette domination en quelque sorte, elle s'effondrera elle aussi. Et elle subira le jugement elle-même pour tout ce qu'elle a fait, tout le mal qu'elle a commis. Mais pour l'instant, Dieu invite son peuple à accepter et à optimiser son exil. À accepter de vivre en paix avec leurs concitoyens, mais toujours ancrés dans la grâce et dans les promesses de Dieu. Et si c'était aussi notre situation ? Bien sûr, le contexte est très différent. Mais, je le disais un peu plus tôt, le Nouveau Testament, en particulier la première lettre de Pierre, affirme que les disciples de Jésus vivent dans ce monde comme des exilés. Pierre commence sa première lettre en s'adressant à, je cite, « ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. » Or, la suite de la lettre montre bien que Pierre écrit à des chrétiens qui sont originaires de ces pays-là. Tout ça, ça correspond en gros à la Turquie. Ils sont originaires de ces pays-là, le Pont, la Galatie, la Cappadoce, etc. Il écrit à des gens qui ne sont pas étrangers au sens premier du terme. Ils vivent dans leur pays. Pourtant, Pierre, dès le début de sa lettre, les décrit comme des exilés. Parce qu'ils appartiennent à une réalité nouvelle. Celle que Jésus appelle le royaume de Dieu. En confiant leur vie à Jésus-Christ, ils ont reçu une nouvelle identité qui transcende les frontières humaines. Ils font partie de la famille de Dieu. On en a eu un rappel avec les annonces qui ont été faites tout à l'heure. Ils sont unis, les disciples de Jésus, donc ça nous concerne aussi, sont unis à leurs frères et sœurs dans la foi par des liens plus forts que tous les liens humains. Ils sont unis par l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection pour eux. En passant par l'eau du baptême, ils ont été officiellement, visiblement ajoutés à ce peuple nouveau, ce peuple transnational qu'est l'Église. Mais cette identité nouvelle en Christ, elle ne rentre pas facilement dans les catégories de ce monde, dans les cases de notre monde, dans les identités que notre monde retient avant tout. Que ce soit des identités ethniques, des identités politiques, des identités culturelles, nationales tout simplement. Toutes ces identités, sans être inexistantes, sans être sans importance, elles doivent laisser la priorité pour le chrétien à son identité première, qui est d'appartenir à Jésus-Christ. J'ai grandi pour ma part dans une famille binationale, franco-américaine. Et j'ai perpétué d'ailleurs cette double identité en épousant une Américaine que j'ai rencontrée en France. Nos enfants sont donc aussi, eux aussi binationaux. Et comme d'autres binationaux parmi nous pourront le confirmer, c'est à la fois très enrichissant d'avoir deux pays, deux identités nationales, culturelles. Sans aucun doute, c'est très enrichissant. Mais il y a aussi quelque chose d'un peu inconfortable lorsqu'on est porteur d'identité plurielle comme cela. Je suis français et américain depuis ma naissance, j'ai les deux passeports. Mais quand je vais aux États-Unis, je ne suis pas totalement de là-bas. Le contraire est un peu moins vrai, car j'ai ici, parce que j'ai vécu la grande majorité de ma vie en France, mais même ici en France, dans une moindre mesure, il y aura toujours comme une partie de moi qui sort du cadre en quelque sorte, qui sort du cadre national et culturel. Et beaucoup, sans doute, de diverses origines, plurielles également, pourraient témoigner en ce sens. À plus forte raison. Lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, on est dans un sens exilé dans son propre pays, par son appartenance au royaume de Dieu. Il y a une appartenance qui a pris le dessus. Ce qui n'empêche pas d'aimer son pays, d'être attaché à sa culture, pas de problème. Mais notre allégeance première est ailleurs. Il faut être très clair là-dessus. Cela fait de nous, dans un sens, des étrangers, dans un monde qui ne connaît pas Jésus-Christ. Nous respectons nos autorités, nous nous soumettons à leurs lois, nous prions pour elles, mais notre souverain premier, c'est Jésus-Christ. Nous aimons nos concitoyens, nous sommes solidaires d'eux, mais nous avons une autre identité et nous avons une autre espérance, et nous ne devrions pas l'oublier. Donc le message de cette lettre de Jérémie est riche en enseignements pour nous. Les Judéens à Babylone, on l'a vu, n'étaient pas appelés à l'assimilation à Babylone. Mais on voit qu'ils n'étaient pas non plus appelés à l'opposition à Babylone. À quoi est-ce qu'ils étaient appelés ? Qu'est-ce que Dieu leur demande d'être et de faire ? C'est d'être une source de bénédiction pour Babylone. Eh bien, nous aussi qui sommes en Christ, nous sommes appelés ni à l'assimilation à ce monde, ni à l'opposition à ce monde, mais plutôt à vivre en bénédiction pour le monde, Bien sûr qu'il faut s'opposer à certains aspects de ce qui se passe dans le monde, évidemment. Mais notre démarche, d'un point de vue général, ne devrait pas être l'opposition, pas plus que l'assimilation, mais plutôt la bénédiction. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. Et il me semble que cet accent sur la bénédiction pour le monde peut vraiment changer notre perspective. Pas seulement à l'échelle de la société, mais même à l'échelle de nos relations humaines, à l'échelle individuelle même, avec nos prochains. Si je suis chrétien, il me semble que ma vocation face à mes contemporains non chrétiens n'est pas de vivre comme eux et de croire comme eux. Ce n'est pas non plus de vivre contre eux, mais plutôt en bénédiction pour eux. Solidaire partout où je peux l'être, parce que nous partageons la même humanité, nous sommes ensemble créés à l'image de Dieu. Et Dieu n'a pas pris son Église pour la mettre sur une autre planète, mais son Église, elle est dans le monde et appelée à être en bénédiction pour le monde. Solidaire partout où je peux l'être. Témoin partout où je peux l'être. Différent partout où je dois l'être. Nous ne savons pas combien de temps notre exil va durer avant le retour du Seigneur. Les exilés à Babylone, eux, ils ont une lettre qui leur a dit, noir sur blanc, 70 ans. Mais nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Mais quel que soit le temps qui reste, nous sommes appelés à être en bénédiction pour le monde et ceux qui nous entourent. Une bénédiction qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui vient de Jésus-Christ. Car pour vivre en bénédiction, encore faut-il ne pas se tromper d'espérance. Et ça nous amène à notre troisième point. Dieu veut que les exilés ne se trompent pas d'espérance. Alors il y a pas mal d'ironie dans ce texte. On peut passer à côté si on ne fait pas attention. D'abord, il y a une ironie dans le fait que Jérémie écrit à des Judéens qui se croient de passage à Babylone. Et il leur dit, ah non, au contraire, installez-vous, allez-y, vous pouvez construire votre maison, vous pouvez cultiver votre jardin, mariez-vous et mariez vos enfants même. Vous avez le temps, parce que vous allez y être un paquet d'années. C'est ça qu'il leur dit. Mais il y a aussi une ironie un peu plus loin dans le texte, au verset 19, quand Dieu rappelle que si l'exil a eu lieu, c'est parce que les Judéens n'écoutaient pas les prophètes envoyés par Dieu, qui pourtant les avertissaient depuis des générations. Verset 19, ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel. Lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, sans me lasser, non, vous ne les avez pas écoutés, l'Éternel le déclare. Dont acte. Mais maintenant qu'ils sont à Babylone, tiens, tout d'un coup, les exilés sont très à l'écoute de prophètes comme Anania, qui leur disent, vous inquiétez pas, c'est pas si grave, vous allez rentrer bientôt. Mais Dieu les dénonce. Verset 9, ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom, je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. Alors nous devons nous poser la question, me semble-t-il. Qui sont les prophètes que nous écoutons aujourd'hui? Quelles sont les voix auxquelles nous accordons le plus d'attention? Est-ce que ce sont celles qui vont tout naturellement dans le sens de nos attentes et de nos espoirs? Réalise tous tes rêves avec Dieu, ce genre de choses. Se pourrait-il toutefois que les projets de Dieu prennent nos espoirs et nos attentes plutôt à contre-pied, d'une manière qui ne nous arrange pas dans l'immédiat? Faisons bien attention donc, parce que nous sommes tous tentés d'écouter les voix qui nous confortent dans nos préférences. Et parfois nous mêlons Dieu à cela. Ma préférence, c'est forcément sa volonté. Pas toujours. Et c'est ce qui se passe pour les exilés à Babylone. Eux, ils voulaient rentrer chez eux, on les comprend. Et on imagine que ça n'a pas été agréable d'écouter la lettre de Jérémie. Mais la vérité de Dieu, c'est toujours ce dont nous avons besoin. Toujours. Dieu dénonce les faux prophètes parce qu'ils donnent de faux espoirs aux Judéens exilés. Mais s'il les dénonce, ce n'est pas simplement pour dire « Non, détrompez-vous, vous allez y être un moment. » Ce n'est pas seulement pour dire ça. Mais c'est pour leur dire aussi ce qu'ils vous promettent, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Faites plutôt confiance à mes projets. Oui, ce sera long, dit Dieu, mais ce que je prépare pour vous est bien meilleur que la sortie de crise rapide que vous espérez. Versets 10 et 11. Car voici ce que déclare l'Éternel, c'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Ah, tout de suite, ça change quand on le lit en contexte, n'est-ce pas ? Car là, bien sûr, on en arrive à l'un des versets peut-être les plus connus de la Bible, les plus instagrammés, au hit parade des calendriers, des mugs et des cartes de vœux chrétiennes. Et cette popularité, elle est compréhensible, c'est un verset magnifique. Mais comprenons bien son sens dans son contexte. Les Israélites veulent entendre que tout ira comme ils le souhaitent. Ils veulent rentrer rapidement chez eux. Dieu leur répond que ce ne sera pas le cas. Mais il leur affirme que pour autant, ces promesses de restauration et de retour ne sont pas annulées. Le jour viendra, dans le temps de Dieu, où Dieu tiendra sa promesse. Et en l'occurrence, il donne une indication précise, c'est rare dans la Bible, 70 ans. Et Dieu souligne que les Judéens n'ont pas besoin de lui rappeler ses promesses, c'est ça que veut dire le verset 11. Il les connaît, ses promesses. Il ne les a pas oubliées. Ces projets pour Israël depuis l'antique promesse à Abraham, ce sont des projets de paix, ce sont des projets d'avenir, ce sont des projets d'espérance. Dieu n'a pas oublié tout ça. Il connaît les projets qu'il a faits pour son peuple. On lit souvent ce verset comme s'il nous disait que nos projets seront toujours couronnés de succès. Mais ce chapitre nous montre plutôt l'inverse. Dieu vient démentir les projets des Judéens parce que eux, leur projet, c'était de rentrer à la maison. Dieu parle ici de ses projets qui sont différents, qui ne sont pas forcément souhaités sur le moment, mais qui sont de bons projets pour eux. Des projets pour leur bonheur, pas pour leur malheur. Autrement dit, même si c'est dur d'attendre, leur dit-il, le Seigneur leur dit, les projets que j'ai faits pour vous, ce sont de bons projets. Alors cela implique la foi, la persévérance de faire confiance à Dieu, même quand le temps est long. Même si pour l'instant les choses ne se passent pas comme on l'aurait pensé ou souhaité. Même si à vue humaine, peut-être, notre vie semble difficile, voire décevante par rapport aux attentes qu'on avait. Nos projets, ils sont fragiles et souvent, ils manquent de sagesse. Et parfois, sur le moment, on est convaincu, en bonne conscience même, que ce sont des projets qui plaisent à Dieu. Et on prend conscience plus tard que ça n'était pas le cas. Mais les projets de Dieu sont bons. Et c'est pourquoi c'est si important pour nous de trouver le sens de notre vie dans les projets de Dieu plutôt que dans les nôtres. C'est tellement, tellement, tellement plus solide. Et c'est exactement, il me semble, ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit ceci. « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses dont vous vous inquiétez vous seront données en plus. » Le fondement de notre assurance, si nous sommes chrétiens, c'est que Dieu nous a introduits dans sa famille, nous a invités à sa table, il a fait de nous ses enfants, il nous a adoptés, nous dit l'apôtre Paul. Nos noms, nous dit la Bible, sont inscrits dans le livre de vie. Nos vies, dit la Bible ailleurs, sont cachées avec Christ en Dieu, Colossiens 3, 3. Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Jésus a vécu la vie que nous ne parvenons pas à vivre. Il a subi la mort que nous aurions dû subir et il l'a fait à notre place. Ce jugement que nous voyons à l'œuvre dans notre texte et dans d'autres textes de l'Ancien Testament s'est abattu sur Jésus pour que nous n'ayons jamais plus à le subir. Dieu a restauré ainsi la relation brisée entre nous et lui. Nous vivons encore dans un monde qui vit sous la condamnation de Dieu. Mais nous en sommes nous-mêmes délivrés, pas seulement à titre individuel, mais ensemble, en tant qu'Église, au sens universel, et puis ça s'incarne dans des réalités locales, en tant que peuple racheté de Dieu, appelé à être témoin de lui. Or, nous pouvons puiser dans notre salut une profonde assurance pour vivre dans cet exil. En fait, nous pouvons vivre avec confiance notre exil dans ce monde parce que nous savons que nous avons notre vrai chez nous auprès de Dieu. Nous pouvons vivre en exil dans ce monde sans crainte parce que nous savons que nous sommes chez nous auprès de Dieu. Notre identité, donc, elle n'est pas bancale, elle est parfaitement ferme. Les projets de Dieu pour nous sont bons parce que nous sommes siens, nous lui appartenons. Et c'est pourquoi nous pouvons nous inscrire dans le temps long sans crainte, comme les exilés du temps de Jérémie. Là où notre culture nous pousse à maximiser nos expériences, à profiter à fond de toutes nos opportunités, y compris sous couvert de foi chrétienne, la sagesse biblique nous invite à saisir la vie véritable que Dieu offre en Jésus. Et ayant cette assurance de vivre avec lui, d'être libéré de cette injonction à maximiser notre vie. On n'a pas besoin de trouver un autre sens que celui que Dieu a donné à nos vies, qui est tellement meilleur que celui qu'on pourra trouver pour nous-mêmes. Au lieu de cela, au lieu d'essayer de maximiser nos vies, nous pouvons vivre en bénédiction les uns pour les autres. Nous pouvons puiser jour après jour dans cette grâce infinie de Dieu et en être si imprégnés que cela fera de nous des gens qui sont source de grâce, source de bénédiction en Jésus. Pour clore, je m'adresse particulièrement aux jeunes. Je vous laisse définir ce qui pour vous est la définition d'un jeune. Mais en fait, je vous rassure, cette question que je vais poser, cette exhortation reste pertinente en fait pour tous les âges. Plutôt que de vous demander comment est-ce que je peux réussir ma vie, comment est-ce que je peux faire de ma vie une réussite, et si vous vous demandiez plutôt comment est-ce que je peux faire de ma vie une bénédiction autour de moi, ça change la perspective et ça mérite qu'on passe en revue nos projets et nos priorités. Mais nous pourrons le faire sans crainte. Vous savez pourquoi ? Parce que ces projets, pour nous, sont des projets de paix et non de malheur. C'est lui qui nous offre un avenir. C'est lui qui nous donne notre espérance. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous avons parfois besoin d'être rappelés à l'ordre parce que nous confondons ce que nous souhaitons avec ta volonté. Mais Père, par rapport aux contemporains de Jérémie, nous sommes comblés de nous situer de ce côté-ci de la croix et de la résurrection, où nous savons que tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu nous as tout donné. Il ne nous manque rien de ce qui est essentiel en Christ. Donne-nous, Père, par ton Saint-Esprit, de trouver dans notre identité en Jésus-Christ ce qui nous comblera et nous satisfera tellement que nous serons libérés de ce besoin d'essayer par nous-mêmes de donner du sens à tout, alors que toi, tu donnes du sens à nos vies en Jésus-Christ. Donne-nous de trouver là une source d'encouragement, mais aussi et d'encouragement de persévérance, de patience, et aussi tout simplement de repos, du bon repos, qui vient du fait que nous savons, comme le dit ta parole, que nous pouvons nous reposer de nos œuvres parce que tu as accompli toutes choses en nous pour Christ et tu nous libères maintenant pour vivre dans l'assurance de cette grâce des vies qui cherchent à te plaire. Et nous savons combien nous sommes loin du compte, sans cesse. Combien nous sommes dépendants de ta grâce au jour le jour. Mais cette grâce, il ne lui manque rien, Père. Tu nous as comblés de cette grâce. Alors donne-nous de puiser encore et encore dans cette source qui ne tarit jamais. Nous te prions toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen.